Monsieur Julien, aujourd'hui, vous allez continuer à nous raconter l'histoire de Saint-Antonin pendant la guerre de Cent Ans. Et pour illustrer cette guerre, Madame Julien, qu'avez-vous choisi?
Saint-Antonin devient donc ville anglaise. Et les habitants ne sont pas fâchés de retrouver la paix dans leurs murs. Ils vont reprendre leurs habitudes et retrouver la douceur de vivre. J'ai choisi, pour illustrer cette période, de la musique d'époque, sinon très éclatante, du moins détendue et heureuse, mais avec un léger décalage de temps, faute de trouver mieux. Vous entendrez donc des airs de danse du XVe siècle, car rappelons-nous que nous ne sommes encore qu'au Moyen Âge. Mais bientôt viendront les routiers qui vont dévaster villes et campagnes. Ces bandes de hors-la-loi seront représentées par un chœur de Wagner aux accents sinistres, plus précisément par un extrait du vaisseau fantôme. Au moment où les marins fantômes du vaisseau fantôme entonnent dans la tempête un chant qu'on croirait sorti des enfers.
Monsieur Julien, la semaine dernière, vous nous avez expliqué que deux fois les Saint-Antoninois avaient ouvert les portes de leur ville aux troupes du roi d'Angleterre. On comprend un peu nos ancêtres qui préféraient ces soldats anglais qui parlaient leur langue et dont le chef jurait par Lucape de Saint-Antony au roi de France qui parlait français et qui leur écrivait en latin. Et finalement, les troupes françaises reprennent Saint-Antonin. Mais en 1360, nous changeons de nationalité.
Donc, le 8 mai 1360, le dauphin Charles, régent du royaume, en l'absence de son père, Jean le Bon, qui est prisonnier des Anglais depuis 1356, doit se résigner à signer le traité de Brétigny. Calais et sa région, la Guyenne, le Poitou, la Saintonge, la Genée, l'Armagnac, le Limousin, le Poitou, je l'ai déjà dit, le Quercy et le Rouergue sont cédés en toute souveraineté au roi d'Angleterre. Les Saint-Antoninois deviennent anglais. Il est précisé dans le traité que les rois d'Angleterre et de France se réuniront le 30 novembre suivant à Bruges pour proclamer officiellement leur renonciation définitive au territoire cédé. Cet acte de renonciation ne sera pas passé. On ne sait pas pourquoi. Mais cet oubli permettra au roi de France en 1368 de récupérer tout à fait légalement, bien entendu, militairement aussi, une partie des territoires cédés. La signature du traité de Brétigny permet la libération anticipée du roi Jean le Bon le 14 octobre 1360, avant le versement de la rançon énorme de 3 millions d'écus d'or. Un écu valait 3 livres, payable en 7 termes. Pour sa quote-part, notre province, le Rouergue, devait verser 6 000 moutons d'or.
Vous nous précisez ce qu'est un mouton d'or, s'il vous plaît?
Le mouton d'or était une monnaie d'or, comme son nom l'indique, créée par Jean le Bon, justement. C'était une monnaie nouvelle, appelée ainsi parce que sur la face était représenté l'agneau pascal. Et on ne disait pas un agneau d'or, on disait un mouton d'or. Bon, on doit verser 6 000 moutons d'or, et le Rouergue n'en versera finalement que 1 400. Et alors, chose curieuse, qui en dit long sur notre patriotisme, notre ville semble avoir totalement oublié de verser sa contribution. En tout cas, on n'en trouve aucune mention dans les livres de compte. La date limite de cession des territoires avait été fixée au 29 septembre 1361. Vous voyez qu'il a fallu du temps, hein? Mais ce n'est encore que le 8 février 1362 que les commissaires royaux, suivis d'une petite escorte de chevaliers, arriveront à Villefranche de Rouergue pour procéder à la cession officielle de notre province. Ils sont deux commissaires. Jean Chandos pour le roi d'Angleterre, Jean le Mingre, dit Boussicot, pour le roi de France. Ils arriveront à Saint-Antonin le 10 février. pour prendre possession de la ville. Deux commissaires et leur escorte se présentent à la porte rhodanaise qui est restée fermée pour la circonstance. Les consuls, en robe consulaire, prévenus de l'arrivée de ces notables, se tiennent derrière la porte, à l'intérieur. Boussicault, commissaire du roi de France, commande, au nom du roi de France, qu'on ouvre le guichet et qu'on donne les clés de la porte. Les consuls tendent les clés que Boussicault remet à Jean Chandos. Celui-ci, après avoir fait procéder solennellement à l'ouverture de la porte, remet les clés au consul. Les commissaires entrent alors dans la ville où, précédés des consuls, ils se rendent à l'église pour y recevoir le serment des consuls de la ville. Serment qui débutait ainsi. Nous jurons et promettons à vous, sire lieutenant du roi d'Angleterre, notre seigneur, que d'ores en avant serons à notre dit seigneur le roi d'Angleterre et à ses heirs, c'est-à-dire à ses héritiers et successeurs, etc. Jean Chandos ordonne alors que les armes du roi d'Angleterre soit placé sur les portes de la ville et sur les bannières du consulat. C'est le signe effectif de la prise de possession. Il présente aux notables de la ville, consuls et conseillers, le nouveau capitaine châtelain, Jean de la Caussade, et le nouveau sénéchal du Rouergue, Amanieu du Foussat. Les noms de ces hauts personnages montre qu'il n'y a pas eu colonisation anglaise et l'on comprend que nos ancêtres aient accepté de bonne grâce ce changement et qu'ils aient, dès le 13 février suivant, fait enregistrer à Villefranche leur serment de fidélité. Mais attention, ils sont malins. Ils ajoutent dans ce texte-là qu'ils accordent, qu'ils font ce serment de fidélité de l'express consentement d'un député du roi Jean en conséquence du traité de paix fait entre le roi de France et le roi d'Angleterre. C'est une réserve significative. Vous comprenez qu'il se méfie, hein ? Alors, si jamais par hasard il retombait entre les mains du roi de France, comme ça il dirait, on ne l'a pas fait exprès, c'est vous qui nous l'avez ordonné. En échange, Jean Chandos confirme en mars suivant les coutumes ainsi qu'en témoigne cette mention du livre de compte, « Paguem al notari de Vilonovo per la carta que portet el meteis a Sant Antoni, la qual és al consulat, en la qual se contava que Monsenyor Joan Chandos havia jurat tenir i guardar les franqueses i les llibertats de la Bialo de Sant Antoni. Autrement dit, on garantit les privilèges de la ville.
Monsieur Julien, après la prise de possession de la ville par le roi d'Angleterre, comment se passe la nouvelle administration anglaise ?
L'administration anglaise, bien que tatillonne, hein, ce sont des Anglais en haut, hein, se révélera quand même beaucoup plus proche des administrés et surtout beaucoup plus équitable que l'administration française. De nombreuses réunions auront lieu, présidées par le sénéchal. Elles auront lieu à Villefranche, à Sauveterre, à Najac, à Villeneuve, à Rignac, à Peyrus, où seront débattues les affaires de la province. Il ne passe pas de mois, et quelquefois pas de semaine, sans que les consuls ou leurs délégués soient convoqués à une tornado que devientene a Meluzza ou Senescal. Les villes recevront fréquemment la visite des grands chefs, du sénéchal, de Jean Chandos et du prince de Galles lui-même qui, ayant reçu l'Aquitaine en don de son père en juillet 362, ne dédaignera pas de prendre possession de ces bonnes villes. On lit en effet, dans le même livre de comptes, au mois de mars 1363, Paghem, nous payons, quand le cavalier negre, c'est-à-dire le prince noir, et el señor da l'asparo, am lor compagnios, passero a San Antantuni, per 7 livres de candelos. Ce qui veut dire qu'on a acheté des chandelles pour leur faire honneur, pour illuminer. Le nom de prince noir n'est donc pas une invention moderne.
Oui, est-ce que on sait pourquoi on appelait le prince de Galles le prince noir?
Oui, parce qu'il avait revêtu, par modestie et par élégance surtout, une armure sombre. Peut-être pas noire, peinte au noir de fumée, mais en tout cas très sombre, qu'il avait fait distinguer d'ailleurs déjà à la bataille de Poitiers, où il s'était fortement distingué dans les combats, on l'avait signalé comme étant le prince noir. Enfin, je voulais dire ceci. Certains affirment que le prince noir n'est jamais venu en Rouergue. Eh bien, je crois que grâce à ce petit paragraphe de notre livre de comptes, nous avons la preuve que le prince noir, le cavalier negre, est passé à Saint-Antonin. C'est merveilleux, ça, quel honneur. Tout est donc pour le mieux, vous le voyez bien. Et les consuls de l'époque se félicitent même de cette occupation anglaise qui, pensent-ils, va grandement revivifier le commerce.
Malgré cette occupation anglaise, Saint-Antonin semble donc parti pour une nouvelle prospérité.
Ah oui, mais c'était compté sans les routiers. Les routiers, ces bandes de soldats mercenaires, maintenant démobilisés puisque la guerre est finie, et qui, sous la conduite de chefs sans scrupules, qui sont toujours des petits nobles ou des bâtards de nobles, vont se répandre dans les campagnes, pillant, volant, violant, et s'emparer de châteaux et de lieux fortifiés. on ne pourra se préserver des routiers qu'en leur offrant de fortes sommes d'argent et surtout en renforçant les fortifications de la ville. La grande affaire des consuls en cette année 1363 sera la remise en état du mur d'enceinte de notre ville, travail énorme auquel seront employés tous les bras disponibles, los fustiers, les travailleurs du bois, los peyriers, les travailleurs de la pierre, los caufurniers, les chaufourniers pour la fabrication de la chaux, las pesturesos, les boulangères, los pescaires, les pêcheurs, et des manœuvres de toutes sortes qui, pendant 9 mois, vont travailler sans relâche, tous les jours, à cette œuvre de salut qui va coûter, évidemment, une somme énorme. 22 pages du livre de comptes de 1363, et ce sont des pages grand format, de 30 cm sur 40 cm, 22 pages donc, sont consacrés à l'énumération minutieuse des sommes payées pour le sable, l'areno, que les pêcheurs, los pescaires, retiraient de l'Aveyron, pour la chaux, la carousse, que l'on fabriquait, alors c'est ça qui est curieux, au froid de Bouissette, dans un caufour, dans un four à chaux. Alors, la chaux ne se fabriquait pas ici à Saint-André, mais au froid de Bouissette, là-bas, du côté de Casal. Pour la pierre ensuite, la pierre tout venant d'abord, la peyre, extraite des maisons démolies ou abandonnées à cause de la peste. La pierre de taille, qu'on appelait las gresados, extraite à Pecheviel et à La Calme, sans parler du transport de tous ces matériaux, des sacs de toile confectionnés, qu'il fallait faire confectionner pour le transport de la chaux, des journées de manœuvre et de bêtes de somme nécessaires. Les bêtes de somme étaient toujours des ânes, parce que, par exemple, le sable, là, quand l'on portait, on le portait et on payait tant de charges d'ânes, qu'on appelait des saumados. Le sable se portait en charge de barque, qu'on appelait des navados. Jamais, sans doute, un pareil chantier mobilisant autant de travailleurs, hommes et femmes, n'a existé dans notre ville, sinon plus tard, pendant les guerres de religion. Le mur relevé et haussé, et l'on peut avoir une idée de ce mur si l'on se met devant la maison de Madame Beyrou, du côté du vallon. Vous avez là le mur de la maison de Madame Beyrou, c'est l'ancien rempart relevé à cette époque-là, au XIVe siècle. Le mur relevé et haussé, les portes protégées par des barbacanes, il faudra sans cesse se tenir sur ses gardes, nuit et jour, pour ne pas être surpris pels ennemis. Par les ennemis qui tentent des coups de main à partir de leur château repère de Balaguier et Belcastel dans l'Aveyron et de Picocos dans le Tarn-et-Garonne. Alors, pour ne pas être surpris, on se garde, on envoie quotidiennement des messagers à Stettfong, à Caylus, à Arnac, à Verfeil, à La Guépie, à Millars, à Cordes, à Villefranche pour s'informer des intentions des ennemis. Des hommes quotidiennement sont envoyés en reconnaissance sur le plateau de Servanac, sur le plateau de La Calme et d'Anglard. Et même les enfants sont employés, on dit, défense perana bada, pour aller voir ce qui se passe. Pour prévenir toute surprise, on fera même placer des haies d'épines devant les portes. À ce prix, notre ville restera un asile sûr, où viendront se réfugier les paysans avec leur bétail en cas d'alerte, tandis que le guet, l'ougatz, veillera, nuit et jour, sur le chemin de ronde. Peu à peu, le pays sera pacifié. Les routiers dirigeront ailleurs leurs entreprises de rapine, en suivant Du Guesclin et le prince de Galles en Espagne, et l'on pourra respirer.
Thank you.
Monsieur Julien, toutes ces entreprises de protection de notre ville doivent être ruineuses pour les finances et doivent complètement paralyser l'économie. C'est certainement catastrophique pour Saint-Onen, qui était déjà dans une situation difficile du fait des épidémies de peste et des combats de la guerre de Cent Ans.
Oh, certes, nous le verrons dans la prochaine émission. La situation à Saint-Antonin va être dramatique. On comprend que devant ces dépenses énormes, les finances locales aient été impuissantes à faire face à tous ces travaux gigantesques. Et les consuls seront obligés d'emprunter, d'ailleurs on le comprend. Ils emprunteront essentiellement à la famille de Cardaillac, seigneur de Bioul, et à l'abbé de Beaulieu, l'abbat de Belloc. Mais enfin, on est bien content de se protéger. Et grâce à cette protection, il faut dire que les routiers, jamais maintenant ni plus tard, ne pourront s'emparer de Saint-Antonin. Enfin bon, ce ne serait rien encore, ces dépenses, si le prince noir, dont on sait qu'il est parti en Espagne avec du Guesclin, etc., là-bas il y a livré une guerre, ce serait trop long de la décrire, ruiné par la guerre qu'il vient de livrer en Espagne pour soutenir Pierre le Cruel, le prince noir exige un nouvel impôt. Il contrevient ainsi aux promesses faites de respecter les anciennes coutumes qui veulent que le roi, le suzerain, ne puisse pas lever d'impôts sans le consentement des consuls. C'est là un bon prétexte pour le comte d'Armagnac et les autres barons et seigneurs de secouer le joug anglais. Il faut dire que ce sont les seigneurs, justement, du Rouergue et des provinces voisines qui n'ont pas accepté la mainmise anglaise sur notre pays. Alors le comte d'Armagnac entreprend de constituer une ligue des villes du Rouergue contre ce nouvel impôt et d'en appeler au roi de France. Pourquoi ? On se rappelle qu'au début de l'émission, j'ai dit qu'il était convenu que le roi de France et le roi d'Angleterre passeraient à Bruges un traité de renonciation à la souveraineté des territoires cédés. Or, j'ai dit, ce traité n'a jamais été signé. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, en droit, notre province, le Rouergue, Saint-Antonin en particulier, ont bien été occupés par les Anglais, font partie du duché d'Aquitaine, appartiennent au prince noir, mais relèvent en définitive du roi de France qui reste suzerain du prince noir, donc qui est au sommet de l'échelle notre véritable souverain, et qui acceptera l'appel, lui, le roi Charles V de cette époque. Notre ville se fait un peu tirer l'oreille pour entrer dans cette ligue. Hein. Elle ne sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, les consuls acceptent de signer le 8 février 1369 un accord avec le comte d'Armagnac qui accepte au nom du duc d'Anjou, lieutenant du roi Charles V, leurs 13 conditions. Et croyez-moi, ces 13 conditions sont importantes. Nous pourrons les étudier dans une prochaine émission. Cet acte, sur parchemin, établi à Albi, où les consuls étaient allés rencontrer le comte d'Armagnac, est très important pour les avantages qu'en retire notre ville, certes, mais aussi, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il est le premier document rédigé en français figurant dans nos archives. Jusque-là, nous avons des documents en latin, en occitan, c'est le premier document en français. Il est vrai que le comte d'Armagnac, de Rodez, de Fezensac, de l'île de Jourdain et autres lieux, se piquait de ne pas connaître bien la langue d'oc. Alors, comme les autres ont dit qu'on n'est pas le latin, on s'est mis en français. Alors ça, c'est très important pour nos archives. L'appel des barons et des villes au roi de France sera le signal de la reprise de la guerre, puis de la libération des territoires cédés par le traité de Brétigny. Et c'est ainsi qu'en 1370, Saint-Antonin et les Saint-Antoninois redeviennent français.
Donc, Monsieur Julien, en 1370, Saint-Antonin redevient ville française. Mais la guerre de Cent Ans n'est pas finie pour autant. Et la semaine prochaine, vous nous raconterez la fin de cette guerre de Cent Ans, vue par les Saint-Antoninois.
Oui, ce qui est assez curieux d'ailleurs.
Puis, à la fin de cette émission, vous serez dans les studios de Radio Nobleval. Et pour la première fois, les auditeurs qui le souhaitent pourront vous poser des questions par téléphone sur toutes les émissions précédentes. Et je crois que vous essaierez de leur répondre.
J'essaierai, oui, en prenant des précautions, quoi, parce que tout de même, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un savant, et je ferai ce que je pourrai pour satisfaire La curiosité des auditeurs.
Voilà, je crois que de nombreux auditeurs souhaitaient vous poser des questions. Et ils pourront appeler à partir de 9h15 dimanche prochain à Radio Nomeval, le 30 68 87.